Je crois que tout le monde aime les proverbes, car ils reflètent une sagesse populaire qui provient de l'expérience de ceux qui nous ont précédés, et ils permettent parfois d'éviter certains écueils de la vie. Le proverbe est donc une maxime populaire, et l'on en trouve dans toutes les cultures. Je me souviens, durant mon enfance, avoir entendu bon nombre de dictons énoncés par les anciens ou des membres de ma famille. Ces conseils de sagesse pratique sont communs à un groupe social et différents d'une région à une autre. Ce que disent les Alsaciens dans leur langue spécifique n'est pas comparable aux maximes des paysans de la vallée du Rhône. Les proverbes sont des vérités exprimées en formules toutes faites, imagées et avec un vocabulaire haut en couleur. L'un des livres de l'Ancien Testament a pour titre « Les proverbes ». Comme les psaumes, Job, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. C'est un livre poétique. Mais au lieu de rimes, la poésie hébraïque utilise le parallélisme d'idées. Le plus simple se compose de deux vers synonymes, comme par exemple « Celui qui est généreux connaîtra l'abondance, qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. » Proverbe 11, verset 25. Une autre forme de parallélisme exprime la même idée, mais sous ses deux aspects positifs et négatifs, comme par exemple « Le juste rayonne comme une flamme joyeuse. La lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. » Proverbe 13, verset 9. En poésie, il existe bien des variantes qui permettent d'exprimer la même idée. Ainsi, au lieu de parallélisme, le sage peut utiliser une comparaison, comme par exemple « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même, les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés. » Proverbe 27, verset 20. Les proverbes populaires et surtout les sentences de l'Ancien Testament traitent des sujets d'intérêt évidents comme l'ivrognerie. Proverbe 23, les versets 29 à 35, ou la paresse, Proverbe 24, les versets 30 à 34, ou l'importance du travail qui ne se relâche jamais, Proverbe 27, les versets 23 à 27. En fait, le livre des Proverbes aborde tous les domaines possibles et inimaginables comme le couple, la famille, l'amitié, les rapports entre générations, les relations dans les transactions commerciales, avec l'autorité en place, dans le travail, en politique, avec les animaux, la gestion des biens, la pauvreté, l'usage de la parole, l'alimentation, les tares et les vertus humaines, et ainsi de suite. Alors que la loi de Moïse est constituée de commandements qui définissent ce que sont les normes de Dieu, la littérature de sagesse se fonde sur l'observation de la réalité du monde, de la société humaine et sur le vécu. Les sentences des sages enseignent comment bien vivre les différentes situations de l'existence. L'aspect le plus important du livre des Proverbes est qu'il nous fait réfléchir sur les grandes questions que pose l'existence humaine. À ce titre, il fait partie des livres de sagesse de l'Ancien Testament. Il en existe trois autres qui sont Job, qui traite du problème de la souffrance du juste, l'Ecclésiaste, qui dévoile la folie de l'homme, et le Cantique des Cantiques, qui parle de l'amour dans le couple. Dans leur majorité, les proverbes du livre qui porte ce nom passent d'un sujet à l'autre pêle-mêle et sans ordre précis. Certains proverbes sont même répétés presque mot pour mot. Cette foire aux sentences, c'est l'absence d'arrangement logique, reflète bien la vie où nos circonstances peuvent subitement changer et où nous devons y faire face en adoptant la bonne ligne de conduite. Par ailleurs, la répétition espacée de proverbes similaires imprègne mieux les esprits, ce qui permet de s'en rappeler. Et puis, si les mêmes vérités sont dites tout ensemble, les unes à la suite des autres, d'une manière bien ordonnée, ça deviendrait vite gnangnang, et on s'en lasserait. Cela dit, quand même, en certains endroits du livre, on constate que les proverbes qui traitent d'un même thème ont volontairement été regroupés ensemble. C'est le cas pour les sentences qui concernent les rapports avec le roi, avec les insensés, la paresse, les querelles ou les médisances. Proverbes 16, 12 à 15, 25, 2 à 7, 26, 1 à 12, 13, 16, 16, 17 à 21, 26, 22 à 28. En hébreu, le titre du livre des Proverbes est « Proverbes de Salomon », parce que la majorité des maximes est de son cru. S'il n'est pas le seul auteur, ni même l'auteur de ce livre, Salomon est un écrivain prolifique et un sage, dans le vrai sens du mot, car sa sagesse n'est pas uniquement intellectuelle, mais implique l'être tout entier. Au fait de sa gloire, Salomon est l'incarnation de cette sagesse. Il aime vraiment l'Éternel et lui demande de lui accorder un cœur intelligent, capable de discerner le bien du mal. Cette sagesse reçue de Dieu s'accompagne d'une authentique humilité. Elle s'exprime de manière pratique par une juste administration de son royaume et dans les relations diplomatiques, ce qui fait que la sagesse de Salomon se répand dans tout l'Orient. L'auteur du Livre des Rois dit de lui « Sa sagesse dépassait celle de tous les sages de l'Orient et de l'Égypte. Il surpassait tous les autres. » Ainsi, sa renommée se répandit parmi tous les peuples voisins. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. 1 Roi chapitre 4, les versets 30 à 34. Ou 5, les versets 10 à 14. Le mot hébreu, marsal, traduit par proverbe, a deux sens. Comparer et dominer. Ce qui convient bien, car donner des conseils est un acte d'autorité. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon dit de lui-même, « Non seulement le maître fut un sage, mais il a enseigné la science au peuple. Il a pesé, examiné et mis en forme un grand nombre de proverbes. Il s'est efforcé de trouver des paroles agréables et d'écrire avec justesse des vérités. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et le recueil de leurs sentences ressemble à des clous bien plantés. » Ecclésiaste chapitre 12, les versets 9 à 11. Le mot marsal désigne des proverbes, mais aussi des dictons, des paraboles, des paroles imagées, des sarcasmes contre un ennemi. Ésaïe chapitre 14, verset 4. Des oracles, différentes techniques littéraires et certains propos émanant des sages. Tout comme le livre des psaumes est le livre principal de la poésie lyrique, le livre des proverbes est celui de la poésie dictatique. Les psaumes expriment surtout l'émotion, tandis que les proverbes enseignent la sagesse. Alors que la vie de David ressemble à une traversée sur une mer particulièrement agitée, la vie de son fils Salomon s'apparente plutôt à une promenade en barque sur un lac paisible, car pendant tout son règne, c'est la paix qui domine. Dans les psaumes, le psalmiste prie intensément car sa vie est en danger ou bien sans su-dessous, alors que dans les proverbes, on a le loisir de contempler, d'observer, de réfléchir et d'émettre des sentences. Par sa forme, la première partie du livre des proverbes tranche avec le reste, c'est-à-dire la collection de brèves maximes qui suivent. En effet, les chapitres 1 à 9 se composent de discours dans lesquels un maître, ou la sagesse personnifiée, lance des appels vibrants à s'attacher à l'enseignement qu'il donne. Des invitations qui rappellent celles des prophètes qui, dans l'Ancienne Alliance et au nom de l'Éternel, exhortent le peuple d'Israël à se tourner vers lui. Dans la première partie du livre des Proverbes, la sagesse personnifiée est étroitement associée à l'Éternel au point où elle s'exprime comme lui. Proverbe 1, verset 23. Elle est également le maître d'œuvre qui était auprès de Dieu et l'a assisté dans son œuvre créatrice. Vu ainsi, la sagesse correspond à Jésus-Christ tel qu'il apparaît dans le Nouveau Testament. Je résume quelques passages. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Jean chapitre 1, les versets 1 à 4. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Colossiens chapitre 1, les versets 15 à 17. Voici ce que dit celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Les quatre évangiles du Nouveau Testament présentent Jésus comme un sage. Un maître est la source de la sagesse. Je lis quelques passages. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Luc chapitre 2, verset 47. Son enseignement les remplissait d'étonnement, si bien qu'ils disaient « D'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ses miracles ?» Matthieu chapitre 13, verset 54. « C'est moi, en effet, dit Jésus, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter, et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. » Luc, chapitre 21, verset 15. L'apôtre Paul appelle le Christ la sagesse de Dieu, et il affirme que, en lui, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse. 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 24, 30. Colossiens, chapitre 2, verset 3. Selon l'enseignement du Nouveau Testament, la vraie sagesse, c'est la connaissance de la personne du Christ et l'acceptation de son œuvre de salut. Sous la Nouvelle Alliance, sous le régime de la grâce, la foi en Jésus est équivalente à la crainte respectueuse de l'Éternel, l'attitude qui constitue le principe fondamental de la sagesse. Comme je l'ai dit, dans les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes, la sagesse est personnifiée, est identifiée à Jésus-Christ, l'une des trois personnes de la Trinité, tandis que dans les chapitres suivants, la sagesse est seulement une connaissance expérimentale fondée sur la vénération de l'Éternel. Toujours dans la première grande partie du livre des Proverbes, une attitude indifférente ou opposée à la sagesse est parfois personnifiée sous les traits de Dame Folie, qui attire les gens à elle par l'intermédiaire de mauvais garçons ou de la femme adultère séductrice. Cette première partie est suivie d'une collection. Proverbes 10, les versets 1 à 22, 16. De 375 proverbes dont la majorité sont de Salomon et qui sont surtout sous forme d'antithèses. Ces proverbes sont plutôt de nature religieuse et ils présentent la royauté sous un angle très favorable. Après la collection de 375 proverbes, nous avons deux assemblages de paroles des sages. Proverbes 21, les versets 17 à 24. Et Proverbes 24, les versets 23 à 34. Mais leurs auteurs ne sont pas nommés. Le premier de ces deux assemblages se compose d'une trentaine de maximes qui sont très proches d'un texte égyptien appelé « Sagesse d'Amenemopée ». De caractère pratique, ils ont pour but de prémunir l'auditeur des dangers que représentent l'argent, la gloutonnerie ou l'ivrognerie. Ici encore, le roi, ses activités et la royauté en général sont décrits en termes très élogieux. Ces deux assemblages de paroles des sages sont suivis par la deuxième collection de proverbes de Salomon, proverbes 25 à 29. Ils s'appliquent que sur des comparaisons tirées de la nature ou de la vie humaine. Ils dénotent un climat social assez différent des proverbes de Salomon, de la première collection. Il semble que le peuple d'Israël a vécu des expériences fâcheuses qui font de la royauté n'est plus présentée sous un jour aussi favorable qu'auparavant. Après les proverbes de Salomon et les paroles des sages, nous avons paroles d'augure, proverbe 30, dont une partie du discours est constituée par différentes listes qui ont trait à divers sujets, un peu comme proverbe 6, les versets 16 à 19. Le premier chapitre du livre des proverbes a deux parties. La première comprend d'abord l'exhortation d'une reine mère à son jeune fils, proverbe 31, les versets 1 à 9, afin de le prémunir contre la sensualité, l'ivrognerie, et pour l'exhorter à être bienveillant envers les pauvres. Enfin, ce livre de sagesse clôt avec le poème alphabétique de la femme de valeur qui enseigne comment la sagesse se vit au féminin. Le livre des proverbes est extrêmement varié. Comme je l'ai dit, il peint les portraits du menteur, du paresseux ou de l'ivrogne, mais il décrit aussi des caractères comme le juste, le sage, le méchant ou l'insensé. Les proverbes orientent ou conseillent les bons comportements devant diverses situations possibles. Tout comme la loi de Moïse, dans Deutéronome chapitre 30, les versets 15 à 20, le livre des proverbes place le lecteur à une croisée de chemin, tout en lui révélant les conséquences de son choix. On apprend ainsi que la sagesse mène à la vie alors que la folie conduit à la mort. On trouve aussi dans ce livre une esquisse de tous les personnages bibliques, et vous pourrez même y découvrir un proverbe qui décrit chaque personne que vous connaissez, ami ou ennemi, mais il n'est peut-être pas sage de le leur montrer. La première source de ce que nous appelons la sagesse populaire sont des dictons qui proviennent du monde professionnel, surtout du monde agraire et donc du travail de la terre ou avec les animaux. Mais la vie familiale aussi est source de nombreux proverbes parce que c'est le contexte primordial, le creuset de l'éducation des enfants. D'ailleurs, dans le livre des proverbes, il est recommandé plusieurs fois de rester attaché à l'instruction reçue des parents. Proverbe 1, verset 8. Proverbe 4, verset 4. 6, verset 20. 13, verset 1er. Et 15, verset 5. La seconde source de sagesse vient de spécialistes en la matière. En Israël, comme chez les autres peuples d'ailleurs, il y a toujours eu des sages qui sont généralement attachés au pouvoir royal et qui servent de conseillers au roi. Ils forment une caste à part entière, au même titre que les prêtres et les prophètes. Jérémie chapitre 18, verset 18. On sait que Salomon avait des relations avec des cours royales étrangères, en particulier avec Hiram, roi de la ville de Tyr. L'un des objectifs de ces relations était les jeux d'esprit, l'échange et la culture de la sagesse. L'historien juif Joseph rapporte que, selon les historiens phéniciens, les deux rois voisins, Salomon et Hiram, s'envoyaient l'un à l'autre des énigmes. Dans son ouvrage « Antiquité », Joseph écrit « Hiram, n'ayant plus expliqué celle que lui avait proposée Salomon, il lui paya une somme très considérable, mais ayant depuis envoyé à Salomon un Tyrien nommé Adémon, qui lui en proposa d'autres qu'il ne put lui expliquer. Salomon lui renvoya son argent. » Antiquité 8, 5 et 3. En Égypte, les sages sont aussi magiciens et devins. Et à Babylone, après une formation de 3 ans, le prophète Daniel et ses amis hébreux font partie du cercle des sages conseillers du roi. L'Ancien Testament mentionne la sagesse comme une caractéristique très orientale. Par exemple, les rois mages qui vinrent adorer l'enfant Jésus sont très vraisemblablement des sages babyloniens qui pratiquent à la fois l'astronomie et l'astrologie. Les sages de la cour royale israélite enseignent aussi l'art de gouverner aux futurs dirigeants du peuple. Aujourd'hui, nous avons les grands professeurs de l'École nationale d'administration, mais on ne saurait les comparer aux sages de l'ancien Proche-Orient. Par ses emprunts à d'autres peuples, le livre des Proverbes témoigne que Dieu accorde l'intelligence et le bon sens à toute l'humanité et pas seulement aux Israélites. L'Éternel permet aussi à tous les hommes de découvrir des vérités qui leur sont utiles dans la vie de tous les jours. Cette connaissance pratique universelle est un don de Dieu. Elle n'est pas sans nous rappeler les paroles de Jésus lorsqu'il a dit « Votre Père céleste, lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. » Matthieu chapitre 5, verset 45. Le livre des Proverbes comprend des maximes qui ne sont pas d'origine israélite et qui témoignent donc qu'au fil du temps, une tradition de sagesse s'est constituée chez d'autres peuples. Cependant, la sagesse païenne est une vertu pratique qui mélange moralité et opportunisme, tandis que la sagesse du livre des Proverbes est une manière de vivre qui vise avant tout une vie morale faite de piété et de droiture. Dans les discours du livre des Proverbes, celui qui parle s'adresse souvent à son fils ou à ses fils, ce qui est la manière pour un maître de désigner son disciple. Les proverbes ont une portée universelle qui donne un enseignement utile à tout un chacun. Ce livre a été rédigé pour l'instruction de tout le peuple de Dieu et surtout des jeunes en vue de leur inculquer l'art de vivre dans la crainte respectueuse de l'Éternel. Honorer Dieu est d'ailleurs l'idée centrale du livre des proverbes. Et on la trouve écrite noir sur blanc dès le début du premier chapitre. Je lis le verset. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel, mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Proverbe chapitre 1, verset 7. La clé de la sagesse est répétée encore deux fois à la fin de la première grande partie du livre, c'est l'avant-dernier verset du livre des Proverbes, chapitre 9, verset 10, chapitre 31, verset 30. La nécessité de montrer un profond respect pour Dieu est comme une ligne conductrice qui parcourt tout le livre. Non seulement cette attitude est indispensable pour connaître la véritable sagesse, mais elle rend l'homme heureux. Elle prolonge sa vie, elle permet de trouver une réponse sage et d'acquérir la prospérité. Proverbe 10, verset 27, Proverbe 14, 26 et 27, 16, 3, jusqu'à 20, 19, 23, le 22, verset 4 et le 28, verset 25. Sous quelque angle que l'on considère un proverbe, il n'est jamais inexact. Je donne un exemple. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. J'ai toujours pris ce passage au sens figuré, mais il est tout aussi juste au sens propre. En effet, ce n'est qu'en 1616 que le médecin anglais William Harvey commence à enseigner le rôle du cœur comme organe qui pompe le sang dans tout le corps. Et 12 ans plus tard, il décrit avec précision tout le système circulatoire. Quand j'étais à l'armée, notre sergent nous a enseigné comment, quand on doit courir sous une pluie de balles, on peut se servir du fusil pour protéger deux organes essentiels, dont le cœur, qui est particulièrement vulnérable et fragile. Sur le plan moral, le livre des Proverbes est d'un niveau extrêmement élevé. Aucun autre ouvrage rédigé par des sages n'atteint un tel sommet. On dit que Socrate, qui était un grand moraliste, peut être bien, mais il n'empêche qu'il fut accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse. Le proverbe véhicule aussi une certaine théologie de la rétribution qui enseigne que nos actes et notre manière de vivre ont des conséquences, et que ceux qui empruntent la voie de la sagesse sont récompensés. Cela semble évident, mais il est bon de le rappeler parce que nous avons la mémoire courte. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit « Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traité avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce qu'on a semé. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Galates chapitre 6, les versets 7 et 8. Et dans son épître aux Romains, Paul m'exhorte à ne pas me conformer au monde actuel en tant que système, mais à apprendre à discerner la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. La sagesse des textes sacrés n'est donc pas une simple adaptation de la sagesse universelle purement humaine. Car le livre des Proverbes souligne aussi que la sagesse humaine est déficiente. De nombreux proverbes invitent le lecteur à ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence, mais à se confier pleinement en l'Éternel. Je lis un passage. « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel et détourne-toi du mal. » Proverbe 3, les versets 5 à 7. Je n'ai pas toujours obéi à cette exhortation, et je m'en suis trouvé mal, et même très mal. Le livre des Proverbes bannit toute prétention à une sagesse autonome, acquise par la seule intelligence humaine. La sagesse véritable ne peut venir que de Dieu, et se reçoit dans la soumission à sa parole et à son esprit. Même si, par leur contenu, les proverbes de l'Ancien Testament ressemblent parfois à ceux des peuples non israélites. Ils sont fondamentalement différents parce qu'ils enseignent que la vraie sagesse est un art de vivre devant Dieu, pour lui et avec lui, dans le monde et avec les êtres qu'il a créés.